scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 108, pour le samedi 18 juin 2011, chasseur de fantômes.
Aujourd'hui, je suis avec Grégory Le Sieur, qui est membre ou fondateur, peut-être, il va nous l'expliquer, d'un groupe qui vient d'être créé récemment, donc que je connais fort peu, qui s'appelle le Groupe de Recherche sur le Paranormal Alsacien, ou GRPA. Bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, j'ai découvert très récemment ton nouveau groupe. Qu'est-ce que c'est le GRPA ?
Donc en fait, c'est un groupe qui a été créé en novembre 2010, qui enquête donc sur les phénomènes paranormaux, notamment, surtout les hantises. Et donc, on va sur le terrain par rapport à des témoignages, et puis voilà quoi en gros.
Qu'est-ce qui a amené à la création de ces groupes ?
Au départ, c'était un site internet qui recueillait des témoignages. Donc il y avait un forum, on discutait de tout ça, et puis l'envie nous est venue d'aller sur le terrain, en fait. C'est vrai que c'était frustrant de rester derrière l'écran, et donc voilà comment nous est parvenue cette idée.
Donc tu es un des membres fondateurs.
Oui, je suis fondateur.
Donc pour l'instant, vous êtes une petite équipe.
On est 5-6, ouais.
Pourquoi les phénomènes de hantise, qu'est-ce qui personnellement t'a intéressé là-dedans?
J'ai trouvé que, par exemple, l'ufologie, on n'aurait pas été calé déjà, on n'aurait pas eu le matériel pour aller enquêter. C'est vrai que les phénomènes de hantise sont quand même plus abordables.
Le matériel doit coûter quand même assez cher, non?
Disons qu'on se débrouille, quoi, c'est du bricolage, c'est de la récupération. Donc, on se débrouille comme on peut. On n'a pas forcément les moyens, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est plus abordable d'aller directement dans les cas de hantise qu'en ufologie, on n'aurait pas les moyens forcément d'aller enquêter. Mais comme dit, on est un groupe de sceptiques et de rationnels, voilà.
Oui, c'est pour ça que j'ai découvert ça sur le forum de l'Observatoire Zététique, donc ça a attiré mon attention. Est-ce que vous êtes un peu inspiré par les émissions qui sont assez populaires maintenant de Ghost Hunters, ou c'est pas du tout, enfin, vous...
Non, pas du tout, parce que ces émissions, c'est du spectaculaire. Je sais pas si vous avez vu nos vidéos, on tape pas du tout dans le spectaculaire, quoi. C'est plutôt, on donne les faits, rien que les faits. Et c'est vrai que ces émissions, dans chaque émission, il y a un phénomène paranormal, alors que c'est vrai que sur le terrain, c'est complètement différent. Voilà, il se passe pas forcément des choses, il faut avoir de la patience. Et... voilà, on est très loin de toutes ces émissions américaines.
D'abord, un peu en théorie, sans rentrer dans des cas spécifiques sur lesquels vous avez enquêté, comment ça se passe une enquête typique? Quelle est un peu la méthodologie que vous employez?
Donc d'abord, on recueille le témoignage. Donc on va avoir rencontré des témoins, on va un peu voir les lieux où se sont passés les phénomènes, on essaie de voir qu'est-ce qui aurait pu expliquer les phénomènes. Ensuite on fait la pré-enquête, on fait l'historique des lieux en fait, et puis on passe une ou plusieurs nuits sur place avec notre matériel qu'on installe, les vidéos de surveillance, les enregistrements numériques, et après on fait une analyse, et puis... on voit ce qui se passe. C'est vrai que dans la plupart des cas, il y a franchement pas grand-chose. Faut bien avouer. Donc, les gens qui voudraient se lancer là-dedans, faut savoir que c'est pas comme à la télé, quoi. Ouais. C'est clair et net.
Eh bien, c'est exactement comme à la télé, parce qu'à la télé, ils crient qu'ils entendent des choses, mais c'est pour pas grand-chose, quoi.
Voilà, exactement.
Effectivement, ce qu'ils constatent, c'est pas grand-chose.
Non, c'est vrai que la peur, c'est humain, quoi. C'est vrai qu'on a eu des moments où on a eu des boules, même pour rien, quoi. Je veux dire. Mais bon, on reste des êtres humains, quoi.
Comment s'est constituée l'équipe, en fait, juste via ce site web?
Grâce à ce site web, ouais, il y a justement des gens qui nous ont contactés, ils auraient voulu faire partie de l'équipe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté, on les a invités à venir sur une enquête. Du coup, on a vu comment ils se débrouillaient, quoi, en fait. Et c'est comme ça qu'on a recruté les gens, petit à petit. On veut pas une grosse équipe, on veut surtout une petite équipe, mais motivée.
Vous débutez un peu dans le sujet. Comment vous avez cherché un peu à vous former pour mener ce genre d'investigation? Est-ce que vous avez lu des livres ou...
On a lu énormément de livres. On a visité pas mal de forums. On s'est renseigné aussi sur des publications. Le forum de la zététique, d'ailleurs, est très bien aussi pour ça. On a pu voir aussi tout ce qui pourrait nous faire croire à des phénomènes alors que c'est tout à fait explicable. L'appareil de lit, par exemple. On peut aussi voir dans les vieilles maisons, il y a des craquements de bois. Donc c'est clair qu'il y a des gens qui vont crier aux fantômes, mais il y a toujours des explications rationnelles. Jusqu'à maintenant.
Raconte-nous un peu les cas que vous avez enquêtés jusqu'à présent. J'ai vu les vidéos, mais ça vaut la peine qu'on en parle avec nos auditeurs. Détaille-nous un peu comment ça s'est passé, ces enquêtes.
Ok, donc la première enquête, on va dire que c'était une enquête d'essai. Simplement parce qu'on se connaissait pas tous bien. C'est vrai qu'on voulait voir comment se déroule sur le terrain. Donc c'était un vieux château en ruine. On est resté toute une nuit et on a réussi à capter un petit son qu'on n'a pas encore pu expliquer, d'ailleurs. Mais comme dit, nous, on appelle ça des anomalies. On dit pas que c'est un phénomène paranormal, quoi. On peut dire que ça peut être n'importe quoi, mais pour nous, on n'a pas pu l'expliquer au jour d'aujourd'hui, tout simplement. La deuxième enquête, c'était un hôtel situé en Alsace, donc qui était réputé hanté, en fait. Et on est resté deux nuits, en fait, sur place aussi. Et je pense que c'est une... cet hôtel est un peu délabré et tout, c'est ce qui a fait sa réputation, mais on n'a rien vu de surprenant, quoi. Je pense que c'est une légende urbaine, tout simplement. Et la dernière enquête, c'était dans le Haut-Rhin. C'est un monsieur qui a dû quitter sa maison parce qu'il a vu des objets bouger. Il entend des bruits de pas. Donc on est resté deux jours sur place. Et on a encore réussi à trouver des explications rationnelles, en fait. À part encore deux sons qui sont restés pour l'instant inexplicables.
Détaillons un peu, quoi, les enquêtes. Par exemple, pour le château hanté, comment avez-vous trouvé ce lieu? Qu'est-ce qui vous a amené à enquêter sur ce cas-là?
Bon, au début, en fait, on avait enquêté par rapport à une légende de Dame Blanche, tout simplement, et puis une observation d'un témoin. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé sur les lieux, en fait. Et puis, on s'est intéressé à la légende, qui était vraiment une belle légende, quoi. Donc, c'est vrai que, des fois, la pré-enquête et la légende est beaucoup plus belle que l'enquête elle-même, on va dire. L'histoire qui entoure.
Cette observation de ta Dame Blanche, elle datait de quand, à peu près? Enfin, tu dis une légende, mais c'est... Parce qu'il y a encore des gens qui voient des Dames Blanches aujourd'hui, je veux dire, mais...
Disons que c'est une légende qui date d'il y a 3 siècles à peu près. Puis l'observation a été faite à peu près 2 mois avant, par une personne qui promenait son chien.
Raconte-nous un peu les grandes lignes de la légende et de l'observation, comment ça s'est passé?
Alors la légende, en fait, c'était l'histoire d'une dame qui s'est échappée du château par peur de se faire taper, en fait, par son mari, et qui a échoué près d'une cascade, et qui est décédée là-bas, en fait. Et apparemment, elle se baladerait dans les ruines du château et aussi près de la cascade par les temps d'orage. On ne sait pas pourquoi les temps d'orage, mais voilà, en fait, la légende, c'est ça. Et l'observation, donc, c'est une dame qui s'est baladée, en fait, et qui a vu une espèce de lumière dans la forêt, près du château. Et en fait, il s'avérait que c'était la lune, en fait, qui éclairait une partie de la forêt qui donnait l'effet d'une silhouette avec le vent et tout. Donc c'est vrai que souvent on a des explications.
Comment vous êtes arrivé à cette explication?
Bon, on a fait des tests, en fait. On a essayé de se mettre au même endroit qu'il y avait la dame, en fait, où elle a vu cette observation. De prendre des photos, des vidéos, d'essayer d'être dans les mêmes conditions. Donc on a pris à peu près le même, c'était la pleine lune, donc on a pris exactement la pleine lune aussi. Voilà quoi, on a testé. Et voilà comment on est arrivé à cette conclusion.
Vous êtes resté combien de temps dans le château, hein?
On est resté une nuit dans le château.
Et quel genre de... Vous avez quoi comme matériel, des caméras, etc.? Sur le site web, tu signalais que tu avais abandonné l'idée des détecteurs EMF. Tu peux nous raconter un peu ça?
Donc les détecteurs EMF, ça, franchement, ça marche juste dans les séries américaines aussi. Bah, en fait, il n'y a aucune preuve qui atteste que les esprits, si ça existe, s'en fait d'énergie. Et sur les lieux, on n'a jamais eu non plus de manifestation par rapport aux EMF non plus. Donc on se pose beaucoup de questions par rapport à d'autres forums aussi qui en parlent, qui n'ont jamais eu de résultats avec. Donc on s'en sert encore, en fait, comme outil, quoi. On le garde en test, mais c'est vrai que c'est pas notre accessoire principal. Là où on a eu le plus de résultats, c'était avec le dictaphone, en fait.
Vous enregistrez de l'audio, à quel moment vous enregistrez de l'audio? Qu'est-ce qui vous amène à faire ça?
L'audio, on l'enregistre dans les pièces où il y a eu les activités. Donc on essaie de poser des questions aussi. Ça peut paraître bizarre, on a l'air des fois bête devant notre dictaphone, en fait, à poser des questions. Mais on se dit, on n'a rien à perdre, on essaie, quoi. Et ça, on a eu quelques résultats assez intéressants dans ce domaine. Et pour être sûr que ce ne soit pas quelqu'un de l'équipe, en fait, on reste tous ensemble chaque fois qu'on fait les séances. Pour pas avoir une perturbation. Ça, c'est clair et net. Ou bien on sort de la maison pendant quelques temps, quoi. Mais parce qu'il peut y avoir. On a vu qu'il y avait pas. On a pu faire des erreurs au début qu'on ne reproduira plus maintenant, quoi.
Oui, c'est ça, un des grands classiques des Ghost Hunters américains. Ouais. Ils s'enregistrent et putain, un gars dans la pièce à côté, qu'ils avaient oublié qu'il était là, quoi. Ça, c'est.
Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on fait essayer d'avoir une méthodologie vraiment très carrée, quoi. C'est pour ça qu'on est aussi exigeant sur les membres qui nous rejoignent. Très exigeant.
Mais donc là, c'est une tentative de recueillir ce qu'on appelle des Electronic Voice Phenomena, EVP, c'est ça?
Oui, c'est une tentative. On a eu quelques sons. Comme dit, c'est des anomalies. On n'a pas eu de phrase complète. On a eu des petits sons qui sont, ouais, des... qu'on n'a pas pu expliquer, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. C'est... Et en matériel, donc, on a encore des... un système de vidéosurveillance infrarouge, des caméras infrarouges et un thermomètre aussi. Parce que d'après une théorie, en fait, il y aurait la température qui baisserait dès qu'il y aurait une manifestation.
Ouais, les cold spots.
Voilà. On a eu ça aussi, mais c'est parce que c'était très mal isolé à la maison, donc. C'est la seule manifestation qu'on a eue, quoi. Non, mais comme dit, on est très sceptique, hein. Je trouve que c'est comme ça qu'on travaille le mieux. Parce que si on part dans un endroit en croyant que c'est hanté, c'est clair qu'on va voir quelque chose.
Détaillons un peu le deuxième cas. Donc, tu nous disais, c'était dans un hôtel, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc là, comment vous avez entendu parler du cas et puis comment s'est pensée l'enquête?
Bah, en fait, c'était présenté comme le cas le plus, comment dire, le plus probant en Alsace, quoi. Le lieu le plus hanté. Du coup, on s'est dit, on peut pas passer à côté, quoi. Il y a pas vraiment eu des témoignages, c'était des on-dit, quoi. Du coup, disons que c'était une espèce de légende urbaine, quoi, qui s'est montée pendant des années et des années. Parce qu'en fait, c'est un hôtel qui n'a jamais été exploité. C'est assez bizarre, l'histoire.
Ah ouais, bah raconte.
Mais en fait, c'est un hôtel qui a été construit dans les années... Non, au début, c'était un hôtel dans les années 40, par temps de guerre, en fait, pour les soldats. Et qui a été détruit, en fait, par des avions. Donc, il a été reconstruit quelques années après. Et la fille du propriétaire est décédée dans l'hôtel d'une sclérose en plaques, en fait. Pendant la construction. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter la construction, et donc c'est un hôtel qui n'a jamais été exploité, du coup. J'ai jamais eu de clients. Il est encore en construction, on va dire, depuis des années. Donc c'était assez bizarre comme endroit. Donc la végétation commençait à pousser au 13e étage et tout.
Vous avez fait une enquête à propos de la légende, enfin je veux dire aussi de la légende, ici plutôt une rumeur urbaine.
Une légende urbaine,
ouais. Et puis après, vous êtes allé aussi sur les lieux pendant une nuit ou deux?
Oui, pendant deux nuits, on est sur des lieux, oui, exactement.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ces deux nuits? Enfin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
Non, rien du tout. Alors là, je pense que c'était... D'habitude, on a des petits ressentis à quelques endroits, mais là, c'est vrai qu'on rien du tout. En plus, il y a l'autoroute à côté, donc on entend les voitures. Pour les PVE, c'était pas génial, on va dire. Mais non, franchement, on n'avait aucun ressenti. Rien, quoi. On s'est ennuyé plus qu'autre chose, on va dire.
Et la troisième, c'était un cas de poltergeist, plutôt, comme ça, ou en tout cas,
oui,
c'est quelqu'un qui rapportait. Et comment vous êtes rentré en contact avec lui?
En fait, on avait vu son témoignage sur un forum. Donc, on l'a contacté, et ensuite, il voulait des gens sérieux pour aborder la question d'une manière rationnelle, on va dire, parce qu'il avait des médiums avant, qui l'ont dit de quitter la maison et tout.
Waouh.
Bah, du coup, lui, il est parti aussi, il commence à avoir peur. Il s'est fait agripper une nuit aussi, là, il avait dit. Donc, quel
type de déplacement est-ce qu'il observait, enfin, qu'est-ce qu'il voyait?
Bah, il avait ses habits qui sortaient de l'armoire, en fait. Enfin, c'est ce qu'il retrouvait le matin, quoi. Donc, après, on sait pas ce qui s'est passé, il était peut-être somnambule. Enfin, voilà, on peut pas.
Et comment vous avez enquêté sur ce cas-là, là? Ce que vous avez fait?
Pareil, on a recueilli son témoignage et puis on est resté une nuit avec tout le matériel. On a fait des séances de PVE. D'ailleurs, on a enregistré deux sons assez étranges. Je sais pas si je vous les fais écouter ou...
Ah oui, tu peux aussi, c'est une bonne idée.
D'accord. Pour l'instant, c'est parce que si on s'est même renseigné par rapport au... l'office des forêts, en fait. C'était peut-être un animal.
Ça charge.
Je sais pas si on l'entend bien, en fait.
Oui, je l'ai bien entendu, oui.
Et j'en ai un deuxième qui a été pris 2 heures après. Donc avec exactement la même... on dirait la même voix, en fait. C'est un peu plus... on l'entend moins, celui-là. Donc voilà, on n'a pas encore trouvé d'explication. C'est vrai qu'on était revenu pour faire une contre-enquête. Et voilà, on n'a pas...
Et alors, quoi, vous avez parlé au gars? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment est-ce qu'il est revenu dans sa maison? Comment ça s'est passé de ce côté-là?
Ben, en fait, on lui a dit qu'au jour d'aujourd'hui, on lui a bien sûr pas dit que ça n'existait pas, quoi. On lui a dit qu'au jour d'aujourd'hui, pendant notre enquête, on n'a rien vu de suspect. On n'allait pas lui dire non plus qu'il n'y avait rien, parce que franchement, on n'aurait pas pu savoir en deux jours non plus. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens non plus de rester 2-3 semaines dans la maison. Donc, on peut pas lui dire comme ça, il n'y a rien, quoi. C'est clair et net.
Mais je veux dire, comment lui donnait quelle récurrence aux événements? Est-ce qu'il disait toutes les nuits, ou est-ce qu'il disait de temps en temps, ou... Parce que s'il dit toutes les nuits, c'est quand même plus concluant.
Bah, il disait toutes les nuits et à pleine lune surtout. Donc on a fait une enquête à pleine lune aussi. Et il se trouvait qu'il entendait des bruits dans l'escalier. Mais comme dit, on a bien regardé l'escalier, on est resté à côté, on a enregistré. Et il se trouve que c'est une vieille maison, elle date de 1820. Donc c'est clair que les marches, elles craquaient. tout le temps.
Ouais, je suis en train de voir la photo sur votre site web. On se dit qu'un escalier pareil, ça doit bien craquer, effectivement.
Et même quand on monte, quoi, en fait, après, il y a encore le bois qui se résorbe, en fait. Donc, on entend encore les craquements, comme des bruits de pas à nous, en fait. Comme le bois travaille. Donc, c'est vrai que c'était l'explication aussi des bruits de pas qu'on a trouvé.
Oui, juste pour contraster avec d'autres équipes de Ghost Hunter, quid des photos d'orbes, par exemple. Bon, c'est très à la mode quand même sur les sites pro-paranormaux. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, nous, on est catégorique en fait, c'est que vu que ça a été recréé en laboratoire, ces photos, c'est clair qu'on n'apporte aucune crédibilité aux orbes en fait. Mmh. Voilà. Après, si on trouve une photo, comment dire, une vidéo d'orbe par exemple qui bouge d'une façon bizarre, peut-être que ça se discute, mais c'est vrai que sur les photos, c'était toujours des endroits où c'était poussiéreux, on avait réussi à voir ces photos, quoi.
Une autre pratique qui se fait beaucoup, c'est d'avoir un médium dans l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, le problème, c'est que le médium, comment dire, on n'aura aucune preuve de ce qu'il dit. Ce sera son ressenti à lui. Donc, du coup, on pourra l'écouter, mais on pourra apporter aucun. On pourra pas mettre des preuves sur ses dires, en fait. Donc ça nous pose un problème, sachant que on ne croit pas à fond au médium. Pour moi, je pense que les médiums disent des choses en général, du coup tout le monde se retrouve dans ce qu'ils disent. Par exemple, ils disent vous avez quelqu'un qui était mort il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Ben, c'est sûr, on a connu quelqu'un qui était mort il y a 4 ans. Il faut être honnête, quoi. Enfin, on veut bien essayer une fois, quoi. On n'est pas fermé à l'expérience, mais c'est vrai que.
Oui, enfin, t'as tout, comme un des problèmes, c'est qu'évidemment, t'as toujours bien quelqu'un qui est mort à un moment donné, dans n'importe quel endroit. Hein, mais
et puis oui, exactement, ils sont trop généraux. Du coup, on trouve toujours quelque chose qui se rapporte à notre vie.
Ou alors, si tu fais une enquête sur un cas célèbre, comme certains de tes cas, le médium peut aussi chercher sur Internet et il saura ce qu'il est supposé vous raconter. Quoi. C'est le gros problème de l'utilisation des médiums dans les enquêtes. Quoi. Mais ça se fait beaucoup. Hein.
Par contre, un psychologue, ce serait pas mal, je pense aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant au niveau des témoins, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'explications qui peuvent en découler.
Oui, est-ce que tu as déjà interagi avec d'autres groupes de chasseurs de fantômes? Quelle est ton expérience de ce côté-là?
Ben, il y a beaucoup de chasseurs. Enfin, j'aime pas ce terme de chasseurs de fantômes parce que je trouve que ça fait un peu trop encore dit ça, c'est la série américaine, quoi. Non, je pense qu'on est plus observateur que chasseur, on va dire. Dans un sens. On n'est pas là à traquer. On reste sur place, on observe, et puis voilà. On ne fera jamais du spiritisme. Mais c'est vrai que les autres groupes, il n'y en a pas énormément des sérieux, on va dire. C'est qu'ils veulent chercher du spectaculaire, ils trouvent une photo d'orbe, hop, c'est un esprit. On en a qu'on aime beaucoup, en fait, des groupes. On a le RPN, par exemple, qu'on trouve très sérieux. Équipe de recherche paranormale du Nord. Donc ils sont vraiment sérieux, ils prennent tout de la base rationnelle, quoi. Ils ont même une émission de radio qui est sympa. Donc j'aime beaucoup discuter avec eux. Et sinon, bon, c'est vrai que c'est les seuls, on va dire, que je trouve vraiment vraiment très sérieux, quoi.
Je vois. Ok, ben on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Dis-moi un peu quels sont vos projets futurs pour aussi bien est-ce que vous avez une enquête à venir ou en termes de développement de l'équipe ou du site web.
Le site web, pour l'instant, on a fait une mise à jour il y a quelques jours, donc pour l'instant on va le laisser tel quel. Ça c'est beaucoup de boulot. Au niveau des enquêtes, on a trois ou quatre enquêtes sur le gris. On attend les autorisations et on a beaucoup d'enquêtes historiques, on va dire, dans des bunkers. Et ça pourrait être intéressant.
Oui, je voulais te demander, ça c'est vrai, j'ai oublié, mais avant d'aller sur un endroit, sur un lieu, vous demandez l'autorisation préalable.
Oui, bien sûr. C'est vraiment une règle qu'on a instauré, quoi. Oh
ouais.
Je veux dire, c'est vraiment un gage de sérieux aussi de demander une autorisation. On va pas venir, hors la loi non plus. Et c'est vrai que si on se débrouille bien, les autorisations sont facilement données, quoi. Il faut donner des arguments, il faut avoir un bon dossier. On les a franchement dans les trois quarts des cas.
Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de groupes qui ne demandent pas l'autorisation et qui se retrouvent, qui ont des ennuis. Enfin, dans la littérature américaine, tu sais, ça abonde, hein, y compris.
Ouais, je sais.
Quand il y a quelques mois, des morts aussi, il y a un gars qui avait été enquêté sur une voie ferrée, le chemin de fer allait au-dessus d'un pont, il est allé sur le pont et le train est arrivé, il est mort comme ça. Enfin,
là, c'est le prochain fantôme, alors.
Comme quoi, la sécurité avant tout.
Oui, c'est vrai.
Je dis ça au cas où il y aurait des auditeurs qui voudraient faire ce genre d'enquête, parce que quand même...
Faut être prudent, quoi. Il y a des lieux, des planchers pourris et tout. C'est vrai, il faut faire vraiment très gaffe, quoi. On passe facilement à travers les planchers des vieilles maisons, donc...
Très bien. Si quelqu'un veut vous contacter pour avoir plus d'informations, parce qu'il a un cas, ou pour rejoindre votre équipe, tu peux nous donner un peu votre... Où vous êtes sur le web?
Ouais, donc notre site, c'est www.grpa.fr. Donc sur Google, c'est groupe de recherche sur le paranormal alsacien.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ton groupe.
Et de rien, et merci de m'avoir invité.
I'm not a cynic. I'm a hypocrite. It's different. Hypocrites believe in something. Right. And it's great to be in a classroom too, in a lecture hall, you know, because they want to teach creationism in the schools. Creation science is what they call it, right? That's the euphemism that they've chosen for it. And I say teach that. Teach creation science, but teach the Norse Odin myth. Teach the karmic wheel, and teach the Scientology version, which says that the world was created on a bet between God and L. Ron Hubbard. And some of you skeptics might be, you might have a kind of a blind faith in science and empirical inquiry and observable reality and other myths. And so I thought I might set you straight on creation science tonight. God made the world in 7 days. Well, that's 1 week to be specific. Now that's what I call scientific. Say hallelujah, sing his praise, 4042 B.C. On Monday, August 27, he made the earth and sky and heaven. Then he punched out at 503, then he made Adam and then Eve. A garden for them to inhabit. The apple right where Eve could grab it. And I got proof, 'cause I believe creation science. 101, in the beginning it begun, and you are just beginning to educate yourself when you shun evolution. Then Cain and Abel he begat, and they begat all of the rest to us, which means they must have been incestuous. I'm gonna have to pray about that. There might be sinners in this class who might believe in Charles Darwin. I guess that's just their loss in Arwin. Because I'm gonna flunk their ass if you make Genesis your text. You'll laugh at Darwin and what he sees to be the origin of species. Because he's just plain oversexed creation science. 101, you ain't no monkey's great-grandson. You've got a research paper due about the 50 reasons to shun evolution. Don't let them hand you that old jive about survival of the fittest. That notion don't pass the bullshit test. 'Cause look at me, I'm still alive. God made the world just like it is. He made the fossils just to tease us. Old bones to test our faith in Jesus. Yeah, this'll all be on the quiz. Creation science. 101. Now Armageddon, your homework done. Because when this semester's through, it's straight A's for students who shun evolution. The kids get such an education when they shun the heretical theory of the development of life on Earth over millions of years by means of spontaneous genetic mutation.